Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani, à l'écoute donc de nos programmes sur l'ensemble de nos radios partenaires. Il est 8h, auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Promouvoir l'énergie renouvelable afin de faciliter l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Les experts du groupe Énergie Renouvelable Environnement Solidarité, en abrégé GRS, échangent depuis hier sur la question. Célébration ce mercredi 9 août de la Journée mondiale des peuples autochtones. Elle intervient au moment où on assiste à un déplacement massif des populations du centre. Durant la saison des pluies, une multiplication des maladies respiratoires est constatée dans le pays. Des spécialistes de la santé l'expliquent par la fraîcheur et demandent aux parents de protéger les enfants. Au micro, Mariam Maïga, à la technique Nohom Djiri. L'électrification est très faible dans les zones rurales avec moins de 20% contre 55% dans les centres urbains. C'est pourquoi le groupe Énergie Renouvelable Environnement Solidarité, en abrégé GRS, veut faciliter l'énergie pour les usagers productifs ruraux. Il a organisé un atelier à Bamako pour améliorer la résilience économique des petites entreprises en favorisant une meilleure condition de travail. On fait le point avec Fatoumata Koudjo.
La représentante pays GRS Aissata Tall a indiqué que ce projet contribue à amener l'électricité dans les zones rurales afin de promouvoir leur activité économique.
Pour la phase 1 du projet, nous avons eu à installer 6 zones d'activité électrifiées, consolider 2 anciennes zones d'activité électrifiées et nous avons pu appuyer environ 80 petites entreprises rurales. Pour la phase 2, nous ciblons 5 zones.
Le manque de couverture est due à l'insuffisance des financements et la lenteur du processus, c'est du moins ce que signale Adama Yoro Sidibé, directeur national adjoint de l'énergie.
À Kita, on a une centrale de 50 MW crête, mais avec d'autres partenaires, des projets sont en cours. Sinon, le Mali est entièrement engagé dans cette phase qu'on appelle transition énergétique.
Les bénéficiaires se réjouissent d'avoir de l'énergie et un pôle d'habitation pour développer leurs entreprises. C'est le cas de Boli Sissé Koulibaly, transformatrice à Kita.
Nous sommes des femmes rurales. Nous n'avons pas d'électricité dans notre village. Le travail s'est beaucoup assoupli pour nous. Et nous transformons les produits de nos champs. Nous avons tous les matériels ici.
Plusieurs acteurs préconisent l'énergie renouvelable comme alternative afin de soulager les populations.
Pendant ce temps, le Mali se dote d'un nouveau code minier. La part de l'État passe ainsi de 10,20% à 30%. De plus, ce nouveau code générera près de 500 milliards de nos francs de ressources additionnelles au budget de l'État. Cette nouvelle loi du code minier a été adoptée hier par le CNT, Conseil national de transition. Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La Journée internationale des peuples autochtones est célébrée chaque 9 août dans le monde. Au Mali, elle est commémorée à un moment où les populations se déplacent massivement. Le cas le plus récent est le déplacement des habitants de Boudjo vers la ville de Badjangara. Comment se passe la cohabitation entre les autochtones et les déplacés? La réponse dans ce reportage signé Draman Maïga.
Ici, ce sont nos parents qui nous ont accueillis.
Tout le monde sait comment nous avons fui de chez nous. Nous n'avons nulle part où passer la nuit et rien à manger. Voyez-vous même comment nous sommes dans cette école. Difficile de vivre ici.
Vous venez d'entendre ces hommes et femmes accueillis à Badjangara. Ils ont tout laissé derrière eux à Badjo, leur village. Avec la crise, elles sont nombreuses, ces populations qui se retrouvent dans une situation précaire. Souvent, les richesses naturelles d'une localité ne suffisent pas pour satisfaire les besoins des autochtones et déplacés. À Sikasso, les habitants disent tout mettre en œuvre pour rendre la vie agréable aux déplacés.
Nous aidons les déplacés ici à Sikasso, car nous sommes les mêmes. Nous partageons nos champs et nos habitations avec eux.
Les femmes cotisent pour aider leurs sœurs qui viennent ici pour qu'elles aient une vie décente.
À Sikasso, nous accueillons à bras ouverts ces déplacés. Nous leur faisons une place dans notre vie de tous les jours.
En En attendant, à Menaka, au nord du pays, ou à Faladje, dans la capitale malienne, et sur d'autres sites des déplacés, ces populations souhaitent le retour de la paix afin de regagner leurs localités respectives.
Autre titre de l'actualité, au Mali, pendant l'hivernage, il y a une recrudescence des maladies respiratoires telles que la toux et le rhume. Les centres de santé enregistrent ces derniers temps de nombreuses consultations de ces pathologies. Les spécialistes de la santé l'expliquent par la fraîcheur. Ils invitent les parents à mieux protéger les enfants. L'Alecha Walet Infa.
Au centre de santé communautaire de Medinakura, en commune D du district de Bamako, de nombreux usagers confirment qu'ils souffrent du rhume et de la toux.
Chez nous, la plupart des enfants ont la toux et le rhume. Le mien même passe toute la journée à tousser malgré les traitements.
Les rhumes et la toux sont fréquents en ce moment.
Mon enfant est enrhumé et souvent quand il tousse, il vomit.
Je viens de finir le traitement. J'ai beaucoup souffert avec la fièvre et les maux de tête.
Nos enfants tous, et ils ont aussi la fièvre tout le temps.
Madame Djawara Matamaïga, du service de programme élargi de la vaccination du centre, précise que la période hivernale favorise les pathologies. Elle recommande des alternatives pour prévenir contre les rhumes et la toux.
C'est dû à la fraîcheur. Pour éviter ça, de nous protéger les enfants, il ne faut pas que les enfants se lavent à l'air libre. Et puis, les vents qui souffrent pour les sortir sous la pluie.
En plus du rhume et de la toux, beaucoup de consultations sont liées au paludisme, estiment les spécialistes sanitaires.
On en vient donc à notre dossier de la semaine. Le 8 août est la journée internationale dédiée au chat, un animal de compagnie pour beaucoup de personnes au Mali. Si certains ont un amour pour le chat, d'autres le voient comme un animal maléfique. Des spécialistes de la santé affirment qu'il est souvent porteur de maladies. On en sait plus dans notre dossier de la semaine, réalisé et présenté par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Ce miaulement vient d'un chat appelé affectueusement Kouigouma par Ousmane Maïga, son propriétaire. Il cherche son animal car c'est l'heure du repas.
Kouigouma.
Ses boutiquiers affirment qu'il aime le chat, prend soin de lui et le surveille. Mais au-delà, le chat l'aide à chasser les souris de sa boutique.
J'aime le chat parce qu'il m'aide à me débarrasser des souris qui ravagent ma boutique. Lorsqu'un chat prend de l'âge, tu ne peux pas le forcer à rester dans la maison, sinon il va te mordre. On le laisse, il part et revient. Je le surveille car lorsque d'autres personnes le frappent, ça me fait mal. À chaque fois quand je mange, je lui donne à manger aussi.
Le chat est un animal élevé en nombre dans les régions de Tombouctou et Gao. Cela s'explique par plusieurs raisons selon des habitants de ces localités.
Tous les Tombouctiens, 90% élèvent des chats chez eux. Les chats sont notre compagnon naturel.
La viande des chats supposée lutter contre certaines maladies, donc elle a des vertus.
Si la maison doit tomber, les chats courent pour sortir. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il doit mourir, les chats l'abandonnent. Il y a tout ça. Religieusement, on dit que ce n'est pas haram.
Contrairement à ces personnes, Assetou Bagayoko, vivant à Bamako, déteste cet animal. Elle explique le pourquoi.
Je n'aime pas le chat car il est maléfique. Il peut être possédé. Il aime être caressé. Il attaque les enfants. Il défèque et vomit après avoir mangé du n'importe quoi.
Dans nos sociétés, les gens ont un regard négatif sur le chat. Ces propos sont de l'enseignant à la retraite, Djola Konate. Selon lui, cette méfiance résulte du comportement de l'animal en question.
L'imagerie populaire du chat, dans nos traditions, est très hétérogène. Cela est dû à l'attitude à la fois douce et sournoise de l'animal, qui est un compagnon de l'homme dans le jour de la vie, et il abandonne son maître dès les premiers signes de la nuit de la mort.
Par ailleurs, les humains peuvent contracter plusieurs maladies à travers le chat, explique Dr Lassina Diallo, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital du Pongé.
Ils peuvent transmettre un certain nombre de maladies aux êtres humains, notamment la toxoplasmose, la maladie des griffes du chat, la pasteurolose, la sporotrichose. Les chats peuvent être responsables de certaines maladies respiratoires telles que l'asthme et également des allergies.
À noter qu'en Afrique, le chat est aussi souvent associé à la malchance et au malheur, surtout quand il est noir.
Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Maria Maïga à la technique Nohum Diri. Grand merci pour votre fidélité renouvelée au quotidien. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Juliette Koulibaly. D'ici là, excellente journée de mercredi à toutes et à tous.
stage pour les enfants et élèves du Mali.
Révisez et testez vos connaissances en calcul et en français. Pour cela, participez au G École à la radio sur Viamo.
C'est simple. Appelez gratuitement le 37 3 2 1 et laissez-vous guider par le service Viamo.
Tous les enfants peuvent participer au G avec l'autorisation des papas ou des mamans. Vous pouvez vous servir de leur téléphone.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Le thème de notre magazine Toutes les femmes du Mali est l'arbitrage, un métier qui attire de plus en plus les femmes. Femmes au sifflet, de plus en plus visibles dans le pays. Les disciplines de football et basketball n'échappent pas à l'ascension des femmes arbitres au Mali ces dernières années. Cependant, pour des observateurs, ce travail était mal vu selon plusieurs raisons, notamment d'ordre culturel. Focus sur l'arbitrage féminin au Mali avec Khalifa Goïta.
L'arbitrage féminin au niveau du football a pris corps au Mali il y a près de 3 décennies avec un petit nombre. Aujourd'hui, elles sont plus de 50 femmes à évoluer dans le domaine. Mais il faut remplir un certain nombre de conditions pour être arbitre. Seydou Traoré, coordinateur des arbitres à la Fédération malienne de football.
Comme pour les hommes, il s'agit de faire une demande écrite, soit le district, soit au niveau de la ligue. Quand le district va accepter, il n'y a pas de problème. On va vous affecter des instructeurs d'arbitre. Ceux-ci vont se charger de votre formation d'élève arbitre pendant au moins 1 an. Vous enseignez les 17 lois de jeu. Vous apprendre aussi à courir, comment se préparer physiquement. Après 1 an, vous allez subir un examen de passage du premier grade. Chaque 2 ans, il y a un examen que tu devrais passer jusqu'au grade fédéral.
Monsieur Traoré précise qu'elles sont parfois confrontées à des difficultés sociales. Toutefois, il estime que les lignes ont bougé dans ce sens.
Vous savez dans quel domaine elles ont voulu embrasser avec son lot de menaces, d'agressions verbales, physiques. Il y a certaines insultes qu'on profère aux dames. Elles ont un petit temps seulement de carrière parce qu'elles sont appelées à se marier. Pour certaines dames qui ont eu même la chance d'être sur la liste des internationales dont leur mari a dit non, tu vas choisir entre le mariage et l'arbitrage. Donc elle était obligée de se retirer. Et ce n'est pas le seul cas. Au départ, elles étaient vues autrement. Mais de 96 à maintenant, c'est toute autre chose. Hein. Au contraire, beaucoup leur envie. Actuellement, le championnat national féminin est sifflé par les dames seulement.
Madame Samake Teneba Bagayogo est une ancienne joueuse de football et arbitre international depuis 2017. Et cela, après plusieurs années de formation, elle reconnaît ses obstacles.
Pour faire l'arbitrage, c'est un peu difficile. Mais avec le courroie, ça va. Concrètement, il n'y a pas de problème entre nous et nos collègues masculins. Ils nous respectent beaucoup. Parce que le championnat féminin en Ligue 1, ça dépasse soit 10 journées. Même si tu s'entraînes 2 fois par jour, si tu ne fais pas de match, ça ne sert à rien. Quoi. L'avantage, tu fais la connaissance des gens aussi. Ça t'aide aussi beaucoup financièrement. Tu fais des voyages.
Ces propos sont corroborés par Mme Dougouré Fanta Touré, arbitre international de basketball. Aujourd'hui, elles sont 9 femmes qui arbitrent dans le championnat de basketball. Pour elle, c'est la passion qui l'anime.
Aujourd'hui, je ne vois pas les difficultés et les obstacles. Il faut tout simplement foncer parce que le milieu de l'arbitrage a tant de choses à offrir. C'est une réelle école de la vie. Prise de décision, responsabilité et maturité. Quand tu es une femme mariée, manager ton foyer et aller t'entraîner tous les jours, sauf les week-ends. Tu dois convaincre ton mari d'abord. Ce n'est pas du tout facile. Mais quand tu es passionnée, on tient le coup.
La compétence et le savoir-faire doivent être les maîtres mots pour les femmes arbitres au Mali. C'est ce que pense le consultant sportif Mohamed Soumari.
C'est un moment dans lequel la promotion se fait sur la base des performances. De plus en plus, on voit que l'arbitrage a tendance à être professionnalisé, à elle de rehausser le niveau des performances.
À noter que l'arbitre international Fanta Idrissa Koné a honoré le Mali lors de la dernière finale de la CAN KD en Algérie, le mois de mai dernier. Par ailleurs, des femmes évoluent dans bien d'autres disciplines sportives en tant qu'arbitres, notamment dans le kickboxing.